Nous avons assisté dans l'Évangile à la guérison d'un sourd qui parlait difficilement. Et on a envie de renvoyer la question, est-ce que le Seigneur entend le cri de l'homme ? Est-ce que le Seigneur entend le cri de l'homme ? Parce que si vous regardez le livre des psaumes, dans le psaume 38-39, on trouve cette supplication. « Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri, ne reste pas sourd à mes pleurs. » Si on s'adresse au Seigneur, c'est qu'on a bien espoir qu'il entende, et en même temps, si l'on s'adresse à lui, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas entendu. Sinon, ce serait peut-être pas la peine de demander. Alors l'Écriture nous donne le témoignage suivant dans le livre de l'Exode. Au chapitre 3, le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. » Et c'est d'ailleurs un enjeu du livre de l'Exode de manifester que le Seigneur d'Israël, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, est un Dieu qui entend le cri de son peuple, un Dieu qui entend le cri de son peuple. Et c'est d'ailleurs même un élément qui le distingue des idoles d'or et d'argent. Dans les psaumes, on entendra encore les idoles. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Les idoles, elles ont des oreilles et n'entendent pas. Un Dieu qui entend. Mais pourtant, dans le cœur de l'homme qui crie vers le Seigneur, il y a plus que le seul désir d'être entendu. Il y a plus que simplement entendre un Seigneur qui nous dit « Oui, j'ai entendu ta parole ». Il y a le désir que nos paroles pénètrent le cœur de l'autre et qu'il en soit touché. Vous savez, ça nous arrive, on a parlé, on a partagé quelque chose à quelqu'un ou quelqu'un nous partage quelque chose et en fait, on y est profondément indifférent. Oui, j'ai entendu. Et alors ? Il y a quelque chose alors de profondément inaccompli. Et c'est toute l'importance alors dans l'Écriture de cette phrase qui nous dit « Il fut saisi de pitié ». Il y a dans la Bible un verbe qui est réservé à Dieu pour parler de cette réaction, saisi de pitié. Ce verbe signifie littéralement saisi aux entrailles maternelles. C'est un verbe qui est réservé à Dieu dans l'Ancien Testament et qui est appliqué au Christ dans le Nouveau. Il fut saisi de pitié. C'est-à-dire que, en voyant, en entendant, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il est touché au plus profond des entrailles, au principe qui en lui donne la vie. C'est cela l'idée d'être touché aux entrailles maternelles. Les entrailles maternelles sont le lieu où s'élabore la vie donnée, où grandit le petit enfant. Il est utile de noter qu'on a là un dépassement de ce qu'on connaissait dans l'Antiquité. Les Grecs avaient une représentation de Dieu, mais de Dieu qui, pour être parfait, devait être impassible. On a l'impression, oui, impassible, il ne peut pas être touché par l'histoire des hommes. Parce qu'on avait cette impression que s'il peut y avoir une émotion en Dieu, ça veut dire qu'il y a du changement en Dieu. S'il y a du changement, ça veut dire que ce n'était pas parfait. Et donc, ce n'est pas possible, Dieu doit être impassible. Et voilà que, avec le peuple d'Israël, on découvre quelque chose de Dieu qui va au-delà. Un Dieu vraiment de toujours à toujours et pourtant capable d'être touché sans être diminué. Le fait d'être touché dans la relation est même une indication de sa perfection. La capacité à être touché dans une relation est même une indication de sa perfection. Mais alors, si Dieu peut réagir à ce que je vis, peut-il connaître mon tourment ? Nous savons que quand nous éprouvons la souffrance, un élément qui redouble cette souffrance est le fait de ne pas être ou de ne pas se sentir compris. Parce que quand on n'est pas compris, quand on ne se sent pas compris, il y a un élément de solitude qui vient accentuer le tourment. Vous savez qu'il nous arrive aussi de voir parfois quelqu'un qui nous a blessés profondément. C'est l'occasion d'un divorce, d'un héritage, d'un événement professionnel. Et alors que nous galérons, nous avons l'impression, qui est d'ailleurs parfois très objective, que tout va bien pour lui. Il nous a fait chavirer, nous luttons pour ne pas nous noyer. Ah, mais lui, il se porte comme un charme. tout lui réussit. Il nous arrive de penser alors, j'aimerais bien qu'il galère un peu plus. Oh, j'aimerais bien que ce soit un peu dur pour lui. En fait, il faudrait reformuler cette demande qui sinon semble se résumer à souhaiter du mal. On pourrait reformuler cette demande, je souhaiterais qu'il galère un peu plus, en je souhaiterais qu'il goûte à la douleur qu'il a provoquée dans mon existence. Je souhaiterais qu'il ait un échantillon de la douleur qu'il a provoquée dans mon existence. Parce que dans cette demande, il y a en fait l'expression d'un désir de communion. Nous avons été faits pour la communion, et l'injustice a brisé cette communion. Notre histoire porte cette brisure. Pour que la communion soit rétablie, il faut que l'histoire de l'un rejoigne l'histoire de l'autre, jusque dans sa brisure. C'est d'ailleurs ce qui se passe, vous savez, dans la contrition. La contrition, ce regret qui vient de Dieu et qui fait qu'on goûte quelque chose de la peine causée à l'autre. Eh bien, dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, nous avons cette nouveauté si particulière d'un Dieu qui goûte à notre tourment. Vous êtes toujours vivant ? Il y en a plus vivant à droite qu'à gauche. Bon, on a une chance de peut-être voir une résurrection de certains. Je veux insister là-dessus. Nous avons dans cet évangile le signe d'un Dieu, justement, qui peut goûter à notre tourment. Comment ça ? Vous avez vu dans cet épisode, Jésus fait des choses un peu étranges, là. Il lui met les doigts dans les oreilles, il prend sa salive, il lui en met sur la langue, c'est pas extrêmement ragoûtant. Et puis, on nous dit que Jémy soupira, ou que Jésus gémit. Jésus soupira, Jésus gémit. Et ce gémissement, justement, est la manifestation de cette compassion de Jésus. Il n'est pas à distance, on pourrait imaginer un bon guérisseur, qui, ça va pas bien chez vous, hein, je vois ça, mais pour moi ça va, deux, trois trucs, deux, trois passes et tout va bien. Mais j'ai jamais rien compris, connu de ce que vous éprouviez. Jésus soupire et gémit. Jésus se charge du poids du tourment que son peuple éprouve. Et en même temps, ce gémissement renvoie encore à une autre réalité, parce que vous savez que si on est juste deux individus qui gémissent, j'ai la jambe cassée, toi aussi tu as la jambe cassée, oui, bon, on a tous les deux mal, si on s'arrête là, on ne va pas très loin. Le gémissement de Jésus est aussi le gémissement de la création qui attend la visite de l'Esprit-Saint. Et ce gémissement, ce soupir de Jésus est aussi Jésus qui exhale la puissance de l'Esprit-Saint, l'Esprit créateur et recréateur. Et donc, en même temps que notre Dieu fait homme, saisit, partage, goûte notre tourment, il est celui qui insuffle le souffle de l'Esprit, le souffle créateur, le souffle recréateur dans notre être et dans notre histoire. Voilà qui était inédit. Voilà qui était inédit et voilà ce, j'allais dire, dont nous devons être riches en ce temps de rentrée, en ce temps où nous reprenons le bâton de marche, en ce temps où nous assumons de nouvelles responsabilités, dans ce temps où nous commençons un nouveau chemin. Nous ne sommes pas abandonnés sur ce chemin. Le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui a fait alliance avec nous, est à nos côtés. Il est à nos côtés, il est capable de goûter notre tourment, il n'en est pas indifférent, et il est capable aussi de nous insuffler la puissance de son Esprit-Saint. Seigneur Jésus, en ce temps de septembre, en ce temps de rentrée, nous venons à toi. Toi qui entends, toi qui es saisi de pitié, toi qui goûtes notre tourment jusqu'à gémir. Fais monter notre supplication dans l'Esprit Saint vers le Père, insufflant-nous par l'Esprit Saint la guérison et la vie. Marche à nos côtés en cette année. Tu es notre Dieu, Seigneur. Le Dieu qui entend, le Dieu qui a compassion, le Dieu qui insuffle la grâce de l'Esprit. Amen.